17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2019. Paroles d'auteur avec Yves Cochet, président de l'Institut Momentum et auteur de « Devant l'effondrement, essai de collapsologie ».
À vous d'être nombreux aujourd'hui, mais ça, je ne doutais pas qu'avec un invité comme Yves Cochet, il y aurait du monde. Donc, merci à Yves Cochet de venir présenter son livre. Quelques mots d'introduction pour vous donner le cadre de ces paroles d'auteur. Donc, on appelle paroles d'auteur, je m'adresse principalement au public, pour dire que ce n'est pas forcément un débat, même si, d'ailleurs, dans le livre, il y a déjà des controverses à la fin, et même si on va essayer de ménager un temps de questions-réponses, si vous le souhaitez, ou réflexions, on va dire, à la fin de l'entretien. Et je signale aussi que à la suite de cette séance, Yves Cochet sera juste à côté pour dédicacer son ouvrage, et si vous souhaitez poursuivre, ce sera aussi possible de poursuivre, parce qu'à 17h15, on va tout arrêter, parce qu'il y a un autre débat, justement, qui se tient dans cette salle. À destination d'Yves Cochet aussi, en termes d'introduction, pour dire que ce n'est pas, le livre en accéléré qu'on va faire, parce que, voilà, il est chronologique, ce livre, il y a un vrai fil. C'est plutôt, on va se centrer sur le livre, mais... on va peut-être par des questions faire des plongées sur certaines propositions, certains passages, etc. Donc, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Donc, le titre, c'est « Devant l'effondrement, essai de collapsologie ». Et le compte à rebours a commencé, le ton est donné. Et je voudrais, puisqu'on va parler d'effondrement, je voudrais... attaquer le livre par le milieu, à page 115, je vous lis juste un petit passage. La période de la fin du monde telle que nous le connaissons, la période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécue l'humanité en si peu de temps. À quelques années près, elle se composera de trois étapes successives, de points. La fin du monde telle que nous le connaissons, 2020-2030. L'intervalle de survie, 2030-2040. Le début d'une renaissance, 2040-2050. Donc, pour toi, la question de l'effondrement ne se pose pas, elle ne se pose pas, c'est une évidence. Et la seule question, c'est de savoir, est-ce que c'est lent, voilà, là j'arrive à la question, est-ce que c'est lent ou est-ce que c'est rapide et pourquoi est-ce que tu choisis l'option numéro 2 ?
Bien, merci Daniel, et puis merci au Felipe donc, de m'avoir invité. Merci à vous d'être là, chers amis. Alors, en effet, lu par Daniel, ce paragraphe paraît extrêmement affirmatif et effrayant, puisque ça n'est pas demain, c'est demain matin dont il s'agit. Il y a une sorte d'imminence que je revendique et à laquelle je crois. Et en effet, l'effondrement... sur lesquels on pourra revenir en ce qui concerne la définition, sinon il y a des malentendus. Moi, je parlerai plutôt, même si on peut dire effondrement tout court, mais c'est l'effondrement systémique et mondial. Si ça n'est pas mondial, par exemple, Fukushima, ça n'est pas l'effondrement, pas plus que Katrina ou d'autres. C'est peut-être des signes avant-coureurs d'eux, mais l'effondrement systémique mondial, ça veut dire que en un temps assez bref, quelques mois, quelques années, eh bien, en gros, il n'y a plus de pays ou d'États-nations tels qu'on les connaît actuellement. Il y en a 196 ou 197 à l'ONU. Bon, eh bien, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pouvoir central capable à la fois de garantir le respect des lois, à la fois de pouvoir lever les impôts et à la fois de pouvoir contrôler le commerce des armes. Voilà les trois pouvoirs régaliens de tout État qui se respecte. Alors, des États qui se respectent, il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, parce qu'il y a beaucoup de dictatures et puis d'États qui sont faillis, comme on dit en anglais, fail states, mais pour le moment, la Terre a l'air de tourner encore. Bien sûr, on a toutes les alertes que vous connaissez, les alertes qui sont de type environnemental, comme on a vu cet été, mais on le voit aussi bien pour les inondations, les incendies, les sécheresses, le niveau des mers qui augmente, enfin la fonte des glaciers et l'albédo du pôle Nord. qui se noircit. Bon, et je pourrais en citer évidemment des dizaines comme ça de symboles concrets, c'est pas du baratin, qui, qui montrent que dans des temps quand même très raccourcis par rapport à une sorte d'évolution, j'allais dire sans l'humanité comme c'était il y a plusieurs millions d'années, eh bien le système Terre, j'insiste sur le mot système, ça n'est pas linéaire et ça n'est pas une seule cause, c'est l'ensemble des facteurs d'un processus qu'on peut appeler multifactoriel qui en même temps et de manière en effet assez rapide par rapport au temps, disons d'avant Lucie, avant il y a 2 millions d'années si vous voulez, eh bien sont altérés par rapport à ce que c'était avant. Et donc c'est ça que j'étudie aussi bien sous la forme écologique, disons purement géobiophysique, on pourrait dire objective, que sous la forme socio-économique, c'est-à-dire la marche de l'humanité vers le pire. Alors, est-ce que, évidemment, les dates correspondent à quelque chose qui va advenir ? Ce que je crois profondément, à 100%, c'est que ça va advenir, cet effondrement systémique mondial. Bon, j'ai donné trois dates comme ça, 2020, 2030, 2040, 2050, mais c'est indiqué à quelques années près, je ne suis pas à 5 ans près. Par exemple, si on me dit en 2031, à supposer que je sois encore de ce monde, bien entendu, que ben non, ben alors ton effondrement, on l'attend toujours, c'est possible. Mais ce sera certainement avant 2050, bien avant 2050. Et quand je dis la plus grande épreuve, oui, je pense que il n'y a pas eu, et pourtant Dieu sait, et Gérard le sait bien, il n'y a pas eu d'épreuve atroce et cruelle comme celle que nous allons subir dans l'histoire de l'humanité depuis, encore une fois, 2 millions d'années, si on veut commencer par là. Il n'y en a pas eu. Pourtant, au XXe siècle, on a eu des cruautés. Enfin, tout le monde s'en souvient encore, aussi bien les plus jeunes que les plus anciens. Mais là, hélas, c'est à ce point inimaginable que ce manque ou cette impossibilité cognitive due, on peut dire, à l'architecture neuronale de notre cerveau le long de l'évolution, depuis Lucie toujours, c'est impossible de prendre conscience pleinement de l'épreuve qui nous attend. D'ailleurs, personne n'en prend conscience pleinement. Alors, il y a quelques personnes comme moi ou d'autres effondristes comme Pablo Servigne, que vous connaissez, qui disent « attention, il faudrait faire attention parce que ça va être très grave ». Mais le réflexe normal, le réflexe ordinaire, le réflexe, on peut dire, de survie de tout le monde, y compris de nous ici, c'est le déni absolu en disant « non, ça n'arrivera pas ». L'humanité en a vu bien d'autres. Certes, il y a eu quelques civilisations qui se sont effondrées. Alors, on pense toujours au même, d'ailleurs, avec le livre de Jared Diamond, qui est un bon livre, hein, Collapse, un bon livre, mais il a étudié les effondrements, je dirais, locaux, partiels et du passé. Moi, ce dont je parle, c'est du global et de l'avenir. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut extrapoler les critères, même si c'est un livre très intéressant de Jared Diamond, pour essayer de démontrer ceci ou cela dans l'avenir. Bon, il a étudié, par exemple, l'effondrement des habitants de l'île de Pâques. Hein, ça fait toujours sourire. Bon, c'est intéressant. D'ailleurs, j'en parle une seconde dans ce livre. Ou bien la chute de l'Empire romain, qui a duré quand même quelques siècles. Ou bien la mort, ou presque, disons, des Mayas des plaines. Enfin, il y en a encore des Mayas des plaines avec le sous-commandant Marcos. Heureusement. Et donc, alors, est-ce que c'est une prédiction, une prévision, une prospective ? En tout cas, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas quelqu'un qui donne des dates précises et des événements précis. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas les événements, même quelques-uns que je décris dans le livre, c'est ce que j'appelle « the big picture », c'est-à-dire l'orientation globale, globale ça veut dire planétaire, et l'orientation massive. Dans les détails, on va dire le livre est faux. Dans l'orientation générale, et dans la thèse principale d'un effondrement systémique global et imminent, je pense, hélas, qu'il est vrai.
Justement, dans une des parties du bouquin s'appelle parle du scénario central, et peut-être qu'on peut revenir justement sur ce monde de l'effondrement, parce que tu as proposé de revenir sur la définition, donc systémique, mondiale. Mais il y a quand même des détails. Il y a quand même toute la question de la démographie. Peut-être que tu peux revenir sur cette question qui te préoccupe depuis fort longtemps, d'ailleurs.
Oui, alors, il faut quand même essayer de deviner, d'une part, quelques signes avant-coureurs, parfois on dit des signaux faibles, de ce que ça pourrait être. On en a évidemment dans les domaines maintenant bien connus du dérèglement climatique ou de l'érosion de la biodiversité, ou dans d'autres domaines, y compris des domaines socio-économiques. Mais ceux-ci ne sont que des signaux faibles. Par exemple, j'ai peut-être un peu une petite controverse avec certains de mes amis, pas totalement les collapsologues, mais par exemple Christophe Bonneuil, là, qui va parler à côté ou qui a déjà parlé, là, bon, qui est vraiment un ami, ça fait très longtemps qu'on se connaît, c'est qu'il dit l'effondrement a déjà commencé. Ben non, non. Ce qui a commencé, c'est par exemple, en effet, le dérèglement climatique, parce que là, il y a des preuves, l'élévation de la température d'à peu près 1,2 ou 1,3 degrés depuis 1750. Bon, il y a également, évidemment, les détails de ce dérèglement climatique, comme je disais, par exemple, le début de fonte du pergélisol. Moi, c'est ça qui me fait le plus craindre actuellement. On en reparlera, si vous voulez, dans le détail. Il y en a mille détails qui sont d'ailleurs très bien documentés dans ce qu'on appelle les rapports du GIEC, depuis maintenant 30 ans. Hein. Et ce qui est plus intéressant, ce n'est pas un rapport du GIEC en particulier, le dernier, en disant « regardez le dernier », non, c'est l'évolution des écrivains du GIEC eux-mêmes. Ils sont des milliers, à partir de 1989, où ils ont fait leur premier rapport, jusqu'à maintenant. Ils disent en gros, bah, écoutez, le rapport de maintenant, là, il dément un petit peu celui d'il y a 5 ans, on s'était trompé, c'est beaucoup plus grave qu'on pensait il y a 5 ans. Et ils disent ça tous les 5 ans. Bon, et c'est la même chose pour le rapport que vous avez peut-être vu de l'IPBES, hein, qui est un peu un international panel, là aussi, comme le GIEC, mais pour la perte de biodiversité, ils disent la même chose. On voyait d'ailleurs, vous connaissez ces chiffres complètement alarmants, en ce qui concerne, même en Europe, le fait que, en gros, 80%, disons, des insectes, ou des arthropodes, comme vous voulez, ont disparu en 30 ans, quoi, 80% en 30 ans. C'est absolument considérable. Et puis, à peu près, disons, le tiers des oiseaux quoi, qui ont disparu. Il n'y a plus d'oiseaux dans nos campagnes. Ben, certains oiseaux, il faut regarder après, espèce par espèce, population par population, et territoire par territoire. Mais le Muséum national d'histoire naturelle, qui s'intéresse beaucoup à ça, est complètement alarmiste aussi là-dessus. Et bon, alors, ceci, ce sont des exemples. Mais il faut penser, encore une fois, systémiquement, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le monde qui est très mondialisé au sens que dans ma jeunesse, le prix du porc breton dépendait de ce qui se passait entre agriculteurs à Loudéac, au centre de la Bretagne. Maintenant, c'est plutôt le marché à Chicago qui va déterminer quel est le prix des céréales, le prix du porc, etc. Il y a tellement de mondialisation, notamment pour les pays les plus riches, les pays de l'OCDE, que dès que ça bouge quelque part, eh bien, ça a des répercussions de l'autre côté de la planète. Et donc, c'est cette mondialisation qui va s'arrêter de manière assez brutale, mais qui fait que les choses sont prises dans un système. S'il y a un élément qui bouge, par exemple le système financier ou bancaire, système financier et bancaire, eh bien, ça a une répercussion, par exemple, sur le prix du porc, par exemple, ou le prix des céréales. Alors, donc, ce système, ben, je suis trop long. Bon, eh bien, alors, on peut considérer bon, donc, cette mondialisation qui intervient en gros pour 90% vraiment de notre vie concrète. Hein. Par exemple, typiquement, ce micro, c'est un objet mondialisé. Hein. Il n'a pas été fabriqué à Paris par de la terre parisienne et des matières premières parisiennes. Pas du tout. Il y a peut-être, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de pays. Et puis, il a fallu faire venir eh bien, éventuellement des terres rares, éventuellement, évidemment, à la fois du métal et du plastique, donc du pétrole, enfin, etc. Bon. Donc, c'est très facile de voir que même dans cette salle, on est dans une salle complètement mondialisée. Là, je vois les bancs sur lesquels nous sommes assis. Eh bien, pour la plupart, c'est du pétrole. Ça aussi, c'est du pétrole. À peu près tout ce qui vient, d'ailleurs, dans cette salle, vient pratiquement à 100% du sous-sol. Hein. Et le sous-sol n'est pas renouvelable. On extrait, c'est ce qu'on appelle maintenant l'extractivisme, forcené, évidemment, mais c'est un capital, une dotation initiale. Avant l'humain, il n'y avait pas de gens qui extrayaient quoi que ce soit du sous-sol. Maintenant, on extrait, et évidemment, plus on extrait, moins il en reste. Ce n'est pas du tout renouvelable, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, ou tous les autres métaux, métalloïdes, tous les éléments. Qu'est-ce qui dépend uniquement du sol ? Bah, l'eau un petit peu, encore que l'eau, elle vient aussi du sous-sol. Enfin, il y a quand même un cycle de la pluie. Et puis, évidemment, le bois et la nourriture, l'agriculture. Mais l'agriculture elle-même dépend du sous-sol, par exemple, avec les engrais azotés. Bon. Alors, donc, il y a à peu près une dizaine de grosses infrastructures mondiales qui assurent cette mondialisation et notre confort. Alors, ces grosses infrastructures sont assez simples. On peut distinguer déjà les énergies primaires essentiellement les fossiles qui tiennent pour 82% de l'énergie du monde. On dit, oui, mais les fossiles, il faut s'en passer, c'est très polluant. Oui, bien entendu, mais pour le moment, c'est de manière massive avec les fossiles qu'on éclaire cette pièce et tout le reste du monde, par exemple. Et puis, évidemment, qu'on fait des transports, que ce soit aérien, que ce soit maritime ou que ce soit terrestre. On peut distinguer aussi l'électricité, mais qui n'est qu'un vecteur, donc c'est une énergie, on peut dire, secondaire. Donc, ça fait déjà deux grosses infrastructures. Il y a également l'infrastructure des télécommunications. Hein, tous les gens qui connaissent maintenant non seulement le téléphone, la télévision, mais l'Internet et tous ses dérivés. Et puis, il y a les infrastructures qu'on peut dire alors régaliennes qui dépendent des États ou parfois des continents, qui sont des infrastructures justement de sécurité et de santé, en gros. Hein, c'est-à-dire, les hôpitaux et puis les ben, j'étais avec les Gilets jaunes tout à l'heure, là, ils sont en place Daumesnil. Ah oui, j'ai manifesté avec eux. Ah oui, ils étaient plus nombreux que nous, là. Bon, non. Et puis, donc, il y a ça, c'est les pouvoirs régaliens, l'armée, la sécurité. Et puis, évidemment, il y a les infrastructures, par exemple, d'alimentation, qui sont très importantes, tout l'agroalimentaire mondial, car là aussi, c'est très mondialisé. Vous connaissez, vous allez à Monoprix, à Franprix, etc., c'est tout à fait scandaleux. Hein. Mais c'est la même chose avec les biocoop, hein, je vous rassure. C'est-à-dire que vous avez des bananes et des ananas toute l'année, quoi. C'est absolument scandaleux, quoi. Et les gens achètent les bananes et les ananas toute l'année. En disant, si, quand même, ça vaut pas cher, en plus. C'est vrai, quoi, c'est incroyable. Incroyable. Bon, alors, donc, on a comme ça à peu près une dizaine d'infrastructures qui sont reliées les unes avec les autres. Il y a évidemment une des plus importantes, en tout cas la plus réactive, qui est l'infrastructure qu'on peut appeler le système financier et bancaire, dont on a accusé le fait qu'il y a eu un crash, vous vous souvenez, en septembre 2008, là, voilà, à peu près 11 ans. Oui, mais c'est parce que les financiers sont fous, il y a des spéculateurs, ils s'échangent des titres pourris, tout ça, c'est le système financier. Il faut mettre de l'ordre là-dedans, et on va faire les accords de Bâle, et puis tout va être régulé. Pas du tout. Hein. Et d'autre part, la grande erreur, c'est de croire que c'est le système financier lui-même qui est devenu fou en septembre 2008. Pas du tout. C'est l'économie réelle, l'économie la plus dure. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2008? C'est que le prix du baril de pétrole était insupportable. Et c'est ça qui a fait la crise des subprimes, et ensuite la chute de Lehman Brothers, et non pas du tout la folie des spéculateurs. Que les spéculateurs sont fous, on le sait déjà depuis longtemps.
C'était la question que je voulais te poser pour aller un petit peu plus loin sur les deux conceptions de l'économie que tu présentes et opposes dans le livre, une conception biophysique autour de la question de l'énergie, donc tu viens d'en parler, et puis une conception, on pourrait dire néoclassique, autour de la question de l'argent. Mais je pense que, justement, sur l'origine de la crise ou des crises qui nous attendent, ça vaut peut-être le coup que tu reprennes un petit peu cette opposition.
Il y a eu des analyses en masse, en 2008, en 2009, hein, pour voir d'où venait cette crise, bon, dit des subprimes, ou dit, disons, de défaut des banques et des gens qui avaient fait des emprunts. Et la plupart, disons 99% à la fois des politiques et des économistes, sauf quelques-uns, avaient dit, eh bien, c'est le manque de régulation bancaire, en gros. Et d'ailleurs, il y avait eu des inventions auparavant, c'était le fait que lorsqu'on avait ce qu'on appelle un actif pourri, pour dire ça rapidement, eh bien, on le titrisait, c'est-à-dire on le découpe en tranches de saucisson, et on le distribue à d'autres banques pour qu'on soit solidaire. Si jamais j'ai pourri, moi, je n'aurai qu'une partie de la pourriture, puis une autre banque, notamment en France. Ça, c'est les banques américaines qui font ça. Mais par solidarité, on a dit, on va mettre des titres d'actifs pourris un peu partout. Ce qui s'est passé, et évidemment, dès que les actifs pourris sont devenus réellement pourris, c'est-à-dire qu'en fait, les emprunteurs ne pouvaient plus rembourser leur emprunt, eh bien, il y a eu une épidémiologie, on peut dire, des faillites. C'est-à-dire que même les banques bretonnes, parce que je suis d'origine bretonne, où les banques de Seine-Saint-Denis se sont trouvées aussi en grande difficulté bancaire parce que simplement des pauvres noirs américains en Californie ne payaient plus leur remboursement d'emprunt. Alors pourquoi ils ne payaient plus leur remboursement d'emprunt? Par millions, même par dizaines de millions. C'est là que c'est intéressant. Alors ces emprunts étaient pourris parce qu'à l'époque, il y avait une croyance qui était diffusée par les banques, mais les banques elles-mêmes, qui sont cyniques, elles ne savaient pas très bien si c'était vrai ou faux. La croyance, c'est que quand on achète de l'immobilier, quand on investit dans la pierre, comme on dit en France, eh bien, ça va prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Vous achetez une maison à 100 000 euros, eh bien, 10 ans après, elle est à 150 000. Ça, c'est une croyance qui était très forte à l'époque, notamment aux États-Unis. Et alors, donc, même les pauvres ont dit, si vous voulez emprunter de l'argent pour acheter votre maison ou construire votre maison, allez-y. Et les banques, donc, ont prêté comme ça, on appelle les subprimes, c'est le contraire du premium, C'est-à-dire, c'est des emprunts qui sont risqués, par dizaines de millions. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2007-2008? Alors là, regardez, c'est comme c'est de l'histoire, on peut le vérifier. Regardez sur le site de Bloomberg, par exemple, qui est un des meilleurs là-dessus, ou d'autres. C'est regarder même, mois par mois, le cours du baril à New York. Et c'est ça qui compte, c'est pas du tout le fait que les pauvres noirs californiens ont acheté des maisons, c'est le cours du baril à New York. Il est passé, en gros, en janvier 2007, il devait être, disons, de $80 le baril. Et en juillet 2008, il était à $147 le baril. C'est presque un doublement. Alors, évidemment, du coup, le prix à la pompe, comme on dit là-bas, parce qu'on là-bas, on n'achète pas des litres d'essence, on appelle des gallons. C'est pareil, ça fait à peu près 4 litres. Eh bien, a doublé, au lieu d'avoir $2 le gallon, c'est passé à $4. Que font les pauvres? Car comme vous savez, aux États-Unis, tout le monde habite en campagne ou même en banlieue. Il y a très peu de monde qui habite dans les gratte-ciels comme ça. Des villes à gratte-ciel, genre Manhattan, tout ça, ce n'est pas des villes américaines, c'est des villes, disons, offshore, c'est des villes chinoises, si vous voulez. Mais bon, tout le monde habite en banlieue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour aller au boulot, je fais 30 km. Pour aller chercher mes enfants à l'école, je fais 30 km. Et pour aller à Walmart, qui est l'équivalent du Carrefour, de tout ce que vous voulez, je fais 30 km. C'est-à-dire, sans voiture aux États-Unis, vous êtes mort en deux jours. Mort, au sens physique du terme. Bon. Alors, du coup, les gens se sont dit, bon, le prix de l'essence a doublé en une année. Mais je dois rembourser mon emprunt, mon subprime, parce que j'ai ma maison, je suis en train de rembourser sur 15 ans. Qu'est-ce que je fais? Je ne prends plus ma voiture, c'est-à-dire je meurs en deux jours, ou bien je dis, après tous les banques, elles sont riches, donc je prends le facteur le plus faible, je ne rembourse pas mon emprunt, mais je continue à mettre de l'essence dans ma bagnole, comme je suis pauvre, je peux pas, il faut que je choisisse entre les deux, je ne peux pas faire les deux. Et donc, ils ont continué à mettre de l'essence dans leur bagnole, mais n'ont plus remboursé leur emprunt par dizaines de millions. Et donc, c'est bien. Alors, du coup, toutes les banques, les unes après les autres, telles des dominos, ont failli. Bon, celle qui a le plus failli, c'est les Lehman Brothers, mais il y en a plein d'autres aussi qui ont failli, et même non seulement des banques, mais des compagnies d'assurance. Et donc, c'est bien l'économie réelle, l'économie la plus matérielle, c'est-à-dire le prix du baril à New York, qui a fait qu'il y a eu une crise financière après. Mais elle est simplement postérieure à des tensions sur le marché du pétrole, comme on dit publiquement, quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
Ok, alors maintenant, peut-être qu'on peut regarder un peu plus loin, disons, puisque j'ai commencé par citer un passage amené à devenir célèbre, là, avec les différentes étapes que tu énonces. Donc, on a vu l'effondrement. J'aimerais regarder un peu plus loin et poser une question sur qui m'a un peu intriguée quoi, quand j'ai lu le bouquin, sur la question de la transition et de la méthode que tu as suivie. Je m'explique, par exemple, plusieurs fois, tu cites la grande peste de 1348, voilà, qui a entraîné la mort de la moitié des Européens en 5 ans. Donc là, on était bien dans un système, dans quelque chose de très, très grave et systémique et global, etc. Bon, bref, il y a ça. Et je dirais que depuis, au moins depuis le 19e siècle, on s'interroge sur le futur. Il n'y a pas d'historien du futur, certes, mais on essaye de faire de la prévision quand même. Est-ce qu'il y a rupture? Est-ce qu'il y a transition? Enfin, c'est une question qui est débattue largement depuis des décennies. Et j'ai l'impression, j'ai eu cette impression en lisant le livre, que il y avait un moment où, on est dans une... Comme si on partait dans une île déserte, il y a eu l'effondrement, et puis on va récupérer des bouts de ce qui reste pendant quelques temps, on ne va pas non plus tout préciser, comme après un naufrage, quoi, et qu'on reconstitue des bouts de ce qui peut encore continuer à appartenir à l'humanité, aux vivants. Et je me suis demandé si dans la théorie que tu développes, parce que c'est une théorie, c'est une hypothèse, enfin tu diras, j'ai l'impression que tu es parti du futur et qu'il y avait besoin de cette période d'effondrement, même si dans le livre ça se présente de manière chronologique, il y a l'effondrement et après. Mais je me suis demandé dans la réflexion que tu as bâtie, comment ça s'était articulé.
Alors, d'une part, je n'emploie jamais le mot transition. Je pense que si on peut dire qu'il y a eu 3 ou 4 périodes dans l'histoire écologique du monde depuis 50 ans, ne chipotons pas sur les détails ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est 7 milliards 700 millions de personnes et puis la globalité. Bon. Mais depuis 50 ans, il y a eu, ça a fait florès, et il y a même des gens qui parlent encore comme ça, le développement durable, quoi. C'est-à-dire un oxymore absolu qui ne marche pas du tout, mais il y a encore la plupart des capitaines d'industrie et des chefs politiques qui disent qu'on va faire le développement durable. Et puis, il y a eu après une sorte, au moment peut-être dans les années 2010-2020, là, encore maintenant, ce qu'on appelle la transition. C'est un mot qui fait florès. On est dans une période de transition avec la célèbre loi de transition énergétique de Madame Royal. C'était en 2015, un peu comme la COP21. Et là, c'était la transition qui indique que, bien sûr, le vieux monde se meurt. Il y a quelque chose qui est insupportable, qu'il va falloir changer. Ça va être dur, mais on va y arriver grâce à une transition dont on peut plus ou moins prévoir les étapes. D'ailleurs, dans la loi de 2015, il est prévu, c'est une loi à horizon 2050. Donc, c'est une loi extrêmement audacieuse au point de vue de la projection dans le futur. Moi aussi, je me projette à 2050, mais comme je vois que la loi de transition énergétique, on peut prendre celle-là parce qu'elle est très précise, au moins on sait de quoi on parle, là, hein, eh bien, elle a au moins 3 ou 4 tares complètement rédhibitoires qui fait qu'elle ne peut même pas s'appliquer. Même pas s'appliquer, comme ne s'applique pas non plus l'accord de Paris, puisque même la France, qui est si fière de son accord de Paris, avec la grandiloquence ridicule de M. Fabius, de Mme Royal ou de M. Hollande à l'époque, c'était la gloire de la diplomatie française. Voilà, tout le monde entier était là, en Saint-Denis. Bon. Et quand on voit l'accord de Paris, qui est là aussi une régression par rapport au protocole de Kyoto, qui avait eu lieu quand même à peu près 17 ans auparavant. Une régression, le protocole de Kyoto était ce qu'on dit en anglais « legally binding », c'est-à-dire c'était juridiquement contraignant à l'échelle internationale. Si vous ne respectiez pas vos engagements, vous étiez sanctionné. Alors que là, ce qu'on appelle l'accord de Paris, dont tout le monde se gausse, c'est simplement une déclaration politique. C'est-à-dire, les politiques disent « voilà ce qu'on va faire, nous ». Mais si vous ne le faites pas, « ah ben, si, on va le faire quand même, vous nous croyez ». Ça, c'est du baratin, c'est vraiment de la poudre aux yeux et de l'enfumage. Et d'ailleurs, même la France, donc, ne tient pas ses engagements de l'accord de Paris qui n'est que du baratin. Bon, je ne veux pas faire d'état. Alors, donc, c'est ça, c'est la transition. Je ne crois pas un instant à la transition. La transition est une hypothèse sur le cours de l'histoire qui consiste à dire que ce qui fait l'histoire, ce sont justement des transitions gradualistes, incrémentales, réformistes, petit à petit et petit pas, on arrive vers le mieux. Et que plus ça va aller, pour le mieux, pour toute l'humanité. C'est pas comme ça qu'a marché l'histoire, d'ailleurs. Quand on regarde l'histoire depuis 2 millénaires, si vous voulez, notamment au XXe siècle, pas du tout comme ça que ça. Il y a eu, au XXe siècle ou au XVIIIe ou au XIXe, il y a eu des ruptures. L'histoire, c'est plutôt une histoire de rupture, de catastrophe et de bifurcation à bord franc. C'est-à-dire que d'un seul coup, des événements se précipitent, qu'on prévoit plus ou moins, la plupart du temps non, et puis ça vous fait la Révolution française, octobre 1918, ou bien ça fait les guerres mondiales. Hein. C'est ça l'histoire. Le fait que pendant 10 ans, par exemple, le quinquennat de Sarkozy et le quinquennat de Hollande, ce qui s'est passé, pratiquement rien. Quoi. Des petites améliorations ici ou ça, ou des dégradations ici ou là, mais c'est pas ça. Alors ce que je crois, moi, c'est que l'histoire, justement, ne va pas se faire par transition jusqu'à 2050, c'est qu'il va y avoir des ruptures qu'on peut appeler systémiques, dans les 10 domaines, ce que j'appelle les 10 infrastructures, et que ces ruptures, s'il y a une rupture dans une des infrastructures, par propagation et systémique, c'est-à-dire par les liens qu'elles ont les unes entre elles, eh bien ça va se propager, et c'est l'ensemble du système qui va s'écrouler. Alors, en combien de temps? Je vous dis que c'est quelques mois ou quelques années, je ne suis pas encore une fois... ce qu'il faut voir, c'est quand la grande histoire, l'orientation générale. Bon, alors, évidemment, ça peut commencer par un phénomène biophysique, de l'ordre, disons, d'autre chose que simplement les rapports entre humains, ou bien ça peut être un phénomène qui dépend plus des humains. Moi, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on peut appeler, si vous me permettez d'être un peu abstrait, mais c'est tellement peu abstrait que c'est vraiment... Enfin, le théorème est abstrait. C'est le théorème de Liebig. Que dit le théorème de Liebig? Liebig était un grand chimiste allemand du 19e siècle. Hein. D'ailleurs, les Allemands sont les plus grands chimistes du monde depuis deux siècles. Comme ça. C'est les plus grands philosophes aussi, les plus grands ingénieurs. Bon, ils sont devenus fous entre, comme le sait très bien Gérard, évidemment, entre 1930 et 1945. Ils sont devenus fous. Pourtant, c'était la nation la plus civilisée, avec les grands musiciens, etc. Comme quoi, le vernis de civilisation que nous avons, c'est très fragile, hein, très fragile. Et comme disait notre ami Winston Churchill, qu'est-ce qu'il disait Winston Churchill? Entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Vous voyez que ça peut chuter très vite. Hein. Si vous n'avez pas Rungis à Paris, il ne fera pas bon habiter à Paris. Hein. Bon, enfin. Alors donc, je disais, ce théorème de Liebig dit quoi ? Il dit, quand vous avez un processus comme, par exemple, que j'appelle le début de l'effondrement mondial, systémique, et un processus avec plusieurs facteurs, on l'appelle multifactoriel, eh bien, la performance globale du processus dépend du facteur le moins performant. Par exemple, prenons un exemple concret, en agriculture, c'est là que c'est le plus concret. Les trois grands facteurs pour obtenir des quintaux à l'hectare, c'est ce qu'on appelle NPK, l'azote, le potassium et le phosphore. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart des agriculteurs, notamment dans la PAC, hein, la politique agricole commune, eh bien, mettent des engrais qu'on appelle des engrais azotés ou avec du phosphore ou avec du potassium. Bon, alors ça dépend évidemment du sol, pour garder, etc., quelle culture on fait, etc. On en met beaucoup. Si vous voulez avoir 80 quintaux à l'hectare, ben, faut mettre du NPK. Il y a également un petit peu d'oligo-éléments, mais ça compte pour du beurre. On regarde quand même la grande tendance. Eh bien, supposons qu'il manque, par exemple, des nitrates. Mais vous n'avez plus que P et K. Enfin, c'est plutôt le phosphore qui est à risquer actuellement. Eh bien, vous n'avez pas du tout le même rendement. Vous tombez de 80 quintaux à l'hectare à 30 quintaux à l'hectare. Parce qu'un des facteurs, là, il y a trois facteurs pour le processus, disons, de production primaire, comme on dit, c'est-à-dire la production des végétaux. Il y a un des facteurs qui manque, c'est l'ensemble du processus qui est affecté. Et donc, je répète rapidement le truc, quand vous avez un processus multifactoriel, la performance globale du processus dépend du facteur le moins performant. Vous faites un 4 quarts, par exemple, c'est un gâteau à 4 quarts. Vous enlevez un quart, vous n'avez plus de 4 quarts. Si vous enlevez les œufs, il n'y a plus de 4 quarts, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. Alors là, je vous ai donné une dizaine de grandes infrastructures mondiales. Il y en a une qui est faible. Par exemple, la filière pétrolière, elle est faible parce que bientôt, le pétrole va baisser, la production de pétrole va baisser, donc les prix vont augmenter. Eh bien, à ce moment-là, le reste va suivre. Alors, dans des circonstances que je ne peux pas imaginer, heureusement qu'il y a une sorte de dynamique qui va se faire et qui va faire qu'il y a des aléas qui vont montrer que là, il va y avoir une émergence de ceci, là, une guerre civile, là, une famine, là, une inondation, etc., bien entendu. Mais ça va être quand même très sérieux dans la mesure où cette mondialisation sur laquelle nous jouissons comme des porcs, vraiment, on est des nababs, là. C'est scandaleux la manière dont les Occidentaux, dont à peu près 2 milliards de personnes vivent, hein, mais on peut très bien démontrer que, on dit souvent, oui, mais maintenant, les Chinois, ça y va, hein, ils ont de la croissance, c'est des gens très forts, c'est pratiquement la première nation du monde, même au point de vue du PIB, ils vont dépasser les États-Unis dans 30 ans, même pas dans 30 ans, en 2030, etc. Non, jamais les Chinois ne vivront comme les Européens en 2019, jamais, ni en 2030, ni en 2050, ni en 2100. Pourquoi ? Parce que la Terre se meurt, disons, d'extractivisme et de raréfaction des métaux et des métalloïdes et des énergies fossiles. Alors, je prends un exemple quand même très précis. Pour là aussi quantifier, il faut toujours un petit peu quantifier sa pensée, sinon on ne fait que du calibre et on croit que c'est, à ce moment-là, en fait, c'est un peu de l'introspection, ce n'est pas du tout ça. Bon, en France, on est 67 millions d'habitants, on a à peu près 38 millions de véhicules thermiques, des bagnoles, des camionnettes, des camions, des tracteurs. En Chine, ils sont à peu près 1,5 milliard. Et ils ont 150 millions de véhicules thermiques. Donc, en gros, un véhicule thermique pour 10 Chinois. Et nous, on a, disons, un véhicule thermique pour 1,5 Français. S'il y avait la même proportion en Chine de véhicules thermiques, vroom vroom, qu'en France, en gros, il leur faudrait peut-être 1 milliard quoi, de véhicules, 1 milliard de véhicules thermiques. Vous faites ça, maintenant vous prenez les Indiens, qui sont à peu près aussi nombreux. Bon, ils sont 1,4 milliard, on n'est pas à 100 millions près, encore une fois, c'est la tendance qui compte. Eh bien, il faudrait 1 milliard de plus de véhicules là aussi. Or, le parc actuel de véhicules thermiques, c'est 1 milliard. Donc, simplement pour que les Chinois et les Indiens, je ne parle pas des Américains du Sud ou les pauvres Africains dont on dit que c'est le continent de l'avenir, c'est là que ça va se faire, etc. Tout ça est ridicule. Bon, il faudrait donc tripler le parc de voitures actuelles pour que les Chinois et les Indiens vivent avec autant de bagnoles que les Français. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais ni assez de pétrole, de caoutchouc, d'acier, de molybdène, etc. Jamais. Et alors, si vous ne prenez pas maintenant uniquement les voitures, ça, c'est que les voitures. Mais vous prenez, bien sûr, les lave-linges, les écrans plats, les téléphones mobiles, etc. Et c'est le même raisonnement. Donc, jamais les Chinois, jamais les Africains, jamais les Américains du Sud et jamais les Indiens ne vivront comme nous.
Là, je crois qu'on est, on est embarqué. On est embarqué dans ta pensée. Oui. Et je voulais, à ce moment-là, peut-être lire ce qui est au dos du bouquin. Oui. La petite pastille qui est derrière. Attention, l'idée de l'effondrement est une drogue dure à accoutumance rapide. On est dedans là. Hein. La plupart des lecteurs de ce livre n'en sortiront peut-être pas complètement convaincus, mais certainement pas indemnes non plus. Et vous non plus de cette salle, je vous signale. Donc, moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le livre, que je vous livre aussi, puis je vais en venir à la question. C'est en gros, finalement, la conclusion. Enfin, je l'ai prise un peu comme une conclusion. Se pencher sur les réalités personnelles et les échanges d'affect en temps de débâcle complète le fracas des idées, dont tu viens de nous parler, par le tremblement des sensibilités. Et c'est vrai que, j'avais envie de te poser la question, puisque tu reviens parfois, enfin souvent, sur l'idée du pessimisme actif, etc., de la réaction que tu souhaites de la part des lecteurs et peut-être de cette refondation idéologique catastrophiste de l'écologie politique dans le cadre de l'anthropocène. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de ça en 3 minutes
hein. Même pas, parce qu'après, on va peut-être passer, comme il est presque 17h, on va regarder si nos amis veulent réagir dans la salle, ce qui est légitime. Eh bien, je vais indiquer simplement qu'en effet, le livre est le plus objectivant possible, au sens que moi, je m'appuie sur les rapports donc, du GIEC, de l'IPBES, sur les articles dans Science ou Nature, qui sont des grandes revues scientifiques, ou les PNAS aussi, les grandes revues scientifiques. Bon, et donc, à partir de ça, c'est pas la collapsologie n'est pas une science exacte, pas plus, évidemment, que ne l'est l'économie ou beaucoup de sciences humaines. Mais elle prétend quand même avoir un soubassement, une base, on peut dire épistémologique, qui vient des articles qu'on rencontre, comme ceux que je viens de dire, comme les rapports du GIEC ou de l'IPBE, ou du PNUE, qui est souvent mal cité. Le PNUE, c'est le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui est basé à Nairobi, et qui publie aussi des très bons rapports, un peu comme les gens du GIEC ou de l'IPBE, c'est-à-dire des rapports qu'ils appellent GEO, et qui veut dire, enfin, qui est un acronyme pour Global Environmental Outlook, c'est-à-dire quels sont les linéaments de l'avenir qu'on peut éventuellement plus ou moins voir dans un brouillard évidemment intellectuel. On ne peut pas décrire l'avenir tel qu'il serait, il n'y a pas de déterminisme absolu, mais il peut y avoir quand même des certitudes ou presque, et cette certitude ou presque, d'après tous les rapports que je viens de dire, eh bien ma certitude, moi, c'est qu'on n'échappera pas à cet effondrement systémique mondial. Alors après, on va me dire, mais est-ce qu'il y a donc des solutions, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme californien, qui pense qu'à toute question, il y a une réponse technologique. C'est ce que pensent 99% en effet des dirigeants politiques et économiques. Hein. Un peu plus de marché, un peu plus de croissance et un peu plus de technologie, et les petits problèmes écolos dont vous parlez, et également les inégalités sociales, tout ça va disparaître avec les trois piliers du dogme, marché, croissance et technologie. Donc c'est la fuite en avant, on le voit bien. Alors l'histoire la plus drôle, évidemment, c'est l'histoire des voitures, qui est quand même un grand marqueur de notre civilisation, hein, la bagnole, on a tué le train et le reste, et actuellement, une espèce de mode, que les voitures thermiques, quand même, c'est très polluant, c'est très polluant, et donc, même en France, on a un horizon 2040, quoi, dans 20 ans, eh bien, il sera interdit de vendre, de commercialiser des voitures thermiques, on va passer aux bagnoles électriques, voire même aux voitures autonomes, avec de l'IA à l'intérieur, de l'IA, quoi. Bon, les gens en parlent d'autant plus qu'ils ne savent pas ce que c'est exactement, l'IA. Bon, eh bien, et donc ils croient à ça. Vous avez interrogé, par exemple, Madame Elisabeth Borne, qui est la meilleure spécialiste technique du transport en France. Quand j'étais au gouvernement, elle est... il y a 20 ans. Donc, on a eu des bagarres, par exemple, sur la réouverture du tunnel du Mont-Blanc. Après le gros accident, vous voyez, il y a un camion qui avait brûlé dans le Mont-Blanc. Vous vous souvenez, il y a 20 ans. Alors bon, à ce moment-là... Le ministre des Transports actuel était Jean-Claude Guessot, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Claude Guessot, bon, un communiste roublard. Hein, et alors, comme on n'arrivait pas à s'entendre, parce que moi, je ne voulais absolument pas réouvrir le tunnel du Mont-Blanc, il fallait sécuriser, etc. Et lui dit, mais si, quand même, il y a les transporteurs routiers, attends, là, ils vont encercler Paris, ça va être terrible. Et donc, à chaque fois qu'il y a une bagarre entre ministres comme ça, on va devant le Premier ministre qui fait un arbitrage, notez bien ce mot. Alors, Jospin n'y connaissait pas plus en transport, évidemment, que Guesso ou moi, mais il y avait son conseil, sa conseillère technique pour les transports, et bien c'était Madame Elisabeth Bande, qui est actuellement ministre de l'écologie, d'ailleurs, de l'écologie. Elle a succédé à François de Rugy. Alors, Elisabeth Bande, alors donc Jospin dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait les amis? Alors moi je dis, il ne faut pas réouvrir. Guesso dit, il faut réouvrir. Elisabeth Bande, donc, elle est, ce qu'on va faire, on va demander un rapport à Fitterman. Quand on ne sait pas résoudre un problème, on demande un rapport. Alors, Fitterman était l'ancien ministre des Transports, hein, de 1981, pour ceux qui s'en souviennent, et est considéré comme un homme intègre, vraiment le communiste droit. Et alors, Fitterman a fait un rapport. Mais après les élections, Chirac était déjà élu, qu'il a fait son rapport. Bon, alors pourquoi je raconte tout ça? Eh bien, parce que, non, mais actuellement, ce que dit Madame Borne, qui a quand même un grand pouvoir, à la fois ministre des Transports et ministre de l'écologie, plus global, eh bien, elle dit, non, il faut que messieurs Renault et Peugeot orientent leur fabrication, une transition des voitures thermiques vers les voitures électriques et même les voitures autonomes. C'est ça, l'avenir. Alors, moi, je lui ai dit, mais non, l'avenir du transport, quel sera le principal mode de transport terrestre dans l'avenir, disons en 2035, pour prendre à peu près à moitié chemin entre 2050 et maintenant?
Non,
le cheval.
Il fallait pas donc, le dire, il fallait qu'ils achètent le bouquin,
oui,
pour savoir.
Oui, ils vont quand même acheter le bouquin, il y a des détails. Mais donc, la principale politique des transports, que ce soit en France ou en Europe, n'est pas évidemment de construire des bagnoles, etc. C'est de construire des calèches, des fiacres et des diligences, et surtout de subventionner à fond, non pas Renault et Peugeot, comme c'est actuellement, mais de subventionner des haras nationaux pour que, évidemment, les juments mettent des poulains sur le marché. Alors, tout le monde rigole en général, dit, c'est la régression, on va revenir au 19e siècle. Alors, quel sera en effet, en 2050, quel sera ce qu'on peut appeler le niveau technologique moyen de l'Europe, par exemple? À mon avis, moi j'hésite entre 1850 ou le niveau mérovingien. C'est à peu près entre les deux. Est-ce qu'il y aura de l'électricité? Je suis presque sûr que non. Donc, imaginez un monde sans électricité. Mais c'est simplement parce qu'on a une vision à courte vue. On croit que les années fastes, quoi, les 30 glorieuses et même un peu plus tard, c'est-à-dire les 70 ans qu'on a pour 2 milliards de personnes depuis 70 ans sur des petits territoires comme l'Amérique du Nord et l'Europe et le Japon, eh ben c'est quelque chose qui va être extrapolable au monde entier jusqu'en 2100, 2200, 2500 et 3000. C'est ridicule. Quand on se place dans l'Anthropocène, justement, l'Anthropocène qui a la grande histoire du cosmos et de l'humanité, eh bien on voit que c'est quelques milliards d'individus pendant 70 ans sur des petits territoires. Donc c'est un grain de sable dans l'histoire géologique du monde. C'est rien tout ça. Et on croit que ça va durer tout longtemps. C'est la fable, on peut dire la fable, mais cette fable va être très cruelle car ça va s'effondrer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans.
On peut peut-être passer aux questions.
Aux questions.
Bonjour. En préambule, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur qu'est-ce qui sera le mode de déplacement. C'est un des éléments que vous avez oublié dans les différents systèmes. C'est notamment le système de transport dont vous n'avez pas parlé beaucoup, mais vous avez parlé après. Moi, je suis militant de la Vélorution par Île-de-France. Voilà. Et donc, on milite pour la place du vélo dans Paris. Et ce qu'on essaie d'expliquer un petit peu aux gens, et notamment en se battant vis-à-vis de la mairie de Paris, vis-à-vis des écologistes ou quoi que ce soit, contre, alors là, il y a la voiture électrique. La voiture électrique, on sait très bien qu'on ne pourra pas remplacer ne serait-ce que la moitié du parc mondial par des véhicules électriques parce qu'on n'aura pas assez de matières premières. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, il y a une chose, c'est qu'on ne parle jamais du besoin. Dans une ville comme Paris, qui fait 12 km de large et 10 km de long, tout le monde, à part les personnes à mobilité réduite importante, peut se déplacer à vélo. Le problème, c'est qu'on n'en fait pas l'usage et on ne le développe pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en fait, ma question, elle est toujours là, c'est-à-dire qu'on ne part jamais des besoins. Et il y a une chose qui m'embête dans la collapsologie, vous avez parlé tout à l'heure de Pablo Servigne ou des choses comme ça, c'est qu'il y a deux systèmes qui ne sont jamais remis en question sur leur fondement même, c'est l'économique et le politique, dans le sens où je n'entends jamais parler, jamais, que ce soit Servigne ou d'autres, d'anticapitalisme. Ce système capitaliste, si on ne revient pas dessus à un moment de manière fondamentale, et si on ne revient pas, vous avez parlé tout à l'heure des gilets jaunes, aussi sur la manière dont on vit cette fausse démocratie dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir on donne le pouvoir à des gens qui décident pour nous mais qui décident comme bon leur semble, puisque Elisabeth Borne, par exemple, sa loi d'orientation sur les mobilités, elle l'a faite sans nous consulter, ou en nous consultant, et après en disant « Ok, c'est bon, on vous a entendu, mais on va faire quand même quand on, comme on veut. » Donc voilà. Ces deux choses-là, si on ne revient pas fondamentalement dessus, comment on peut arriver à changer réellement les choses, quoi ?
Alors, le temps y compter, et on va prendre, mettons, 3-4 questions, et puis, dans un grand esprit de synthèse, tu proposeras une conclusion, voilà, hein, on va dire comme ça, sachant que la discussion va pouvoir se poursuivre en dehors de la salle tout à l'heure.
Merci, monsieur Yves Cochet, c'était super intéressant. Y a une chose, quand vous avez parlé de la crise des subprimes, je crois que vous n'avez pas dit que c'était des emprunts pourris, c'est-à-dire qu'on n'avait pas dit aux gens que c'était des emprunts à taux pas fixe et que plus ils payaient, plus ils devaient payer. Donc ça, c'est quand même un truc aussi dégueulasse de la part des banques. Et d'autre part, j'ai entendu qu'après l'effondrement, il y a quelques personnes qui pourront s'en sortir, les riches, et qui déjà sont en train de préparer des petites niches bien, bien sympas pour eux et que tous les autres vont crever. Voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus. Merci.
On peut peut-être terminer là-dessus. Ouais. Ah, une dernière.
Voilà, une dernière question.
Bref. Alors, Yves, j'avais eu l'occasion de voir un peu de travers une présence de toi sur un des plateaux télé. Et j'avais trouvé fort intéressant les choses que tu expliquais sur la collapsologie, etc. Mais tu auras remarqué le gueule, pour confirmer ce que tu disais, le gueule des gens autour, ils s'étonnaient parce que tu as quand même un statut de scientifique, parce que tu as été ministre, etc. Sinon, ils t'auraient regardé comme un illuminé, comme ça, quand ils sont venus. Et je vais dire une chose pour abréger, parce que je n'ai pas trop la réputation de la brèveté. Les camarades qui a dit anticapitalisme. Mais là aussi, ça commence, par contre, c'est comme Che Guevara, la Coca-Cola, etc., à se diffondre, parce que anticapitaliste, maintenant on le dit, mais ils n'ont pas aucune référence à ce que c'est le rapport du capital.
Donc, est-ce que vous pouvez...
Oui, et je termine.
Voilà, moi, j'ai boutade. Le mauvais rôle, alors je le joue à fond.
C'est une boutade. Justement, tu as dit marché, croissance, technologie ou intelligence artificielle. On pourrait rajouter État, travail, démocratie, vigilance, avenir, futur. C'est la Chine. C'est Xi Jinping. Tout le monde qui marche en disant c'est là notre avenir. Tu vas voir, non? C'est-à-dire, maintenant, oui, il massacrera peut-être ces groupes d'étudiants à Hong Kong, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est des raisons supérieures, il faut. C'est là, à la fin, la boucle est bouclée, c'est même pas Trump ou Poutine, à la fin, la marche triomphale, ça sera celle de la... ville, cité prohibie, etc., avec les drapeaux rouges, marché, technologie, État, vigilance, etc.
D'accord. Merci.
Alors, il est parti l'autre. Bon, alors, soyons brefs, mais clairs. Comme disait... Peu importe. Alors, il y a d'abord cette histoire de capitalisme. Alors, ça m'énerve profondément depuis d'ailleurs plusieurs années. Il y a du capitalisme, il y a la lutte des classes, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des bourgeois et des prolétaires, si vous voulez. Et même, d'après la doxa marxiste, évidemment, c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire. Je ne le crois plus. Ça voudrait dire que des arrangements entre humains suffiraient pour résoudre certains problèmes. C'est ce que croient d'ailleurs les politiques en général. Eh bien, moi, j'ai été quand même 23 ans dans la politique professionnelle, à quelques niveaux, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale. Enfin, les gens disent, mettons-nous autour de la table, on va résoudre les problèmes. Les problèmes, les retraites, le trou de la sécu, les migrants, etc. Mais non, il y a toujours un absent autour de la table. C'est ce que j'appellerais rapidement, pour être rapide, la nature. Elle est toujours absente, jamais elle est prise en compte. Et cette fois-ci, la nature, elle s'invite à notre table. Parce que la nature ne négocie pas. C'est les humains qui négocient entre eux. Mais la nature ne négocie pas actuellement. Alors évidemment, comme je parle beaucoup, il y a un peu plus de 420 ppm dans cette salle. Mais de toute façon, dans le monde entier, il y a plus de 400 ppm de gaz à effet de serre. Et vous pouvez toujours essayer de discuter avec l'atmosphère. Atmosphère. Non, ça ne marche pas. Et donc, c'est ce que je disais l'autre jour, il y a longtemps maintenant, à Mélenchon. Il disait, oui, pour vaincre le capitalisme, là, c'est la lutte des classes qui va vaincre le capitalisme. Je lui dis, non, c'est la géologie. Et donc, il faut bien comprendre que le capitalisme, c'est un rapport de force second par rapport à ce qui se passe, qui est le productivisme. Et il y a eu autant de productivisme dans le capitalisme, comme il y a actuellement, qu'il y a eu, c'est ce que notre ami ici Thierry appelle, c'est pour ça, Christophe Bonneuil qui est à côté, il dit, il ne faudrait pas dire ça l'anthropocène, parce que l'anthropocène a l'impression que c'est tous les humains qui participent à la dégradation de la planète, il faudrait appeler ça le capitalocène, parce que c'est quand même les capitalistes les principaux acteurs de la dégradation de la planète. Mais non, parce que quand on regarde le communistocène, que ce soit chinois ou stalinien il y a encore 40 ans, dire c'était beaucoup, c'est autant, si on ne fait pas les détails, autant destructeur de la nature et des humains et de l'exploitation des humains par eux-mêmes que le capitalisme. Alors, le capitalisme va plutôt gagner maintenant. Mais je prends toujours l'exemple et donnez-moi un contre-exemple que je ne connais pas encore. Il y a 450 réacteurs nucléaires dans le monde. Là, on devient très sérieux. Est-ce qu'il y a une différence? Pour moi, il n'y a aucune différence entre le fait que un réacteur nucléaire soit propriété de Westinghouse aux États-Unis, donc une propriété capitaliste avec les mecs, ils se font du fric avec ça, ou bien est-ce que si c'est une SCOP autogérée et à but non lucratif qui gère une centrale nucléaire, mais je n'en ai rien à foutre de la SCOP autogérée. Ça serait évidemment le communisme le plus parfait, avec des gens qui sont égalitaires, chacun est propriétaire d'un petit peu de la centrale, etc. Mais ce qui compte, c'est la centrale elle-même, c'est pas la propriété du moyen de production. La propriété du moyen de production est un facteur second. Le facteur premier, c'est la centrale nucléaire. Et donc, me racontez pas, du moment que le capitalisme n'est pas vaincu, on ne pourra rien faire. Mais le capitalisme, il va s'écrouler de lui-même. Je vous dis, ce n'est pas la lutte des classes qui va vaincre le capitalisme, c'est la géologie. Mais évidemment, même Mélenchon, bon, qui est pourtant un type cultivé intelligent, ne comprend pas ça parce qu'il faut décoloniser son imaginaire. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne les riches et les pauvres. C'est là-dessus que je termine. Il y a certains qui disent, ouais, mais actuellement, quand même, qu'est-ce qui bave pour l'environnement dégradé? C'est quand même les pauvres. Hein. Quand on regarde la Seine-Saint-Denis et l'Est parisien, par rapport au gars qui habite Neuilly, eh ben, excuse-moi, mais il a moins de pollution, et puis il a un environnement moins dégradé, etc. Oui, actuellement, parce qu'on n'est pas dans l'effondrement. On a encore un petit peu de croissance, un peu de bien-être, il y a même de l'électricité dans cette salle, il y a des TGV qui marchent, il y a même des avions qui volent encore. Parce qu'évidemment, en 2038, il n'y aura plus d'avions, hein. Il n'y aura plus d'Internet non plus. Donc, il faut vraiment pensez de manière orthogonale. Si vous restez dans les mêmes schémas classiques, en gros de l'économicisme, c'est-à-dire que c'est l'économie qui est déterminant en dernière instance, vous avez perdu. Ce n'est pas l'économie qui est déterminant en dernière instance, contrairement à ce que pensaient Marx et Engels. C'est d'une certaine manière le biologique. Ça, c'est déterminant. C'est-à-dire vous êtes ou vous n'êtes pas, que disait Hamlet. Bon. Et c'est ça qui va. Et donc, est-ce que les riches vont voir mieux se protéger de l'effondrement que les pauvres? Mais pas du tout! Les gens disent, si, maintenant, ils se construisent des bunkers, là, comme les survivalistes américains, ils ont des boîtes de conserve et puis une Winchester, et puis si les mecs viennent, ils tirent dessus. Mais c'est ridicule, tout ça. Ça ne tient pas deux jours, enfin. C'est l'effondrement, au sens où je l'entends, systémique et mondial, je vais donner un seul mot, parce que ça a des conséquences humaines, quand même. Et c'est même ça qui est le plus grave, là-dedans. C'est que j'estime, contrairement à l'ONU, où je voyais encore M. Hervé Lebras, de l'INED, là, qui font des projections démographiques pour la 2050. Ah ben, la population mondiale, ce sera peut-être entre 9 milliards et demi et 10 milliards en 2050, puis ce sera peut-être 11 milliards en 2100. Mais non, en 2050, soit on sera zéro, et je rigole pas du tout, c'est très sérieux. S'il y a ce que j'appelle un épisode nucléaire, civil ou militaire, et ça n'est pas du tout exclu, eh bien, qu'est-ce qui restera sur Terre? Peut-être que l'humanité disparaîtra parce qu'il n'aura pas résisté simplement à la radioactivité. Une fois que c'est libéré, là, vous ne pouvez pas négocier avec la radioactivité. Et s'il y a un épisode nucléaire civil ou militaire, s'il n'y a par exemple pas un Fukushima, mais s'il y a une défection des services publics et des gens qui travaillent dans les 450 réacteurs, supposons qu'il y a une défection. Ça ne vous fait pas un Fukushima, ça vous en fait 100 ou 150. Ben là, c'est une pollution mondiale et une partie de la vie, et notamment la vie la plus haute dans les chaînes trophiques, eh bien, ça sera la mort. Il restera peut-être quelques méduses et quelques moustiques, mais c'est tout. Ne croyez pas que c'est une hypothèse qui est, qui est stupide. D'ailleurs, mon scénario, ce que j'explique longuement dans le livre, c'est le scénario le plus raisonnable, le plus rationaliste, le plus probable. C'est pas du tout, ouais, mais Cochet, non, mais il est devenu fou, il est maintenant extrême, quoi. C'est un scénario radical, parce qu'il aime bien être radical. J'ai toujours été plutôt un réformiste plan-plan, moi, depuis ma naissance, quoi. Voilà, j'ai fait des études de sciences, j'étais mathématicien, et je regardais ce qui était le plus raisonnable et le plus probable, ce sur quoi on pouvait compter dans l'avenir. C'est toujours difficile, il y a encore une fois des détails qui manquent. Évidemment, il n'est pas complètement écrit. Mais ce qui est écrit, c'est que ça va s'effondrer et que ça va être grave au point que l'humanité ne sera pas 10 milliards en 2050, elle sera soit zéro s'il y a un épisode nucléaire, je ne donne pas de détails, mais c'est absolument affreux, je pourrais donner plein de détails, même deux livres là-dessus si vous voulez, soit alors quelques milliards, je dis quelques milliards, 2 milliards ou 3 milliards. Ben oui, ça fait rire, mais ça veut dire que l'ensemble de nous qui sommes ici dans la salle, car ce n'est pas les générations futures, c'est nous qui sommes là, surtout les jeunes, bien sûr, eh bien, on sera mort soi-même, soit ce sera un proche, un frère, une sœur, des parents, des voisins, des amis, etc. C'est ça l'avenir. C'est pas du tout, est-ce que le capitalisme... Non, le capitalisme, d'une certaine manière, c'est un front second. Et donc, le front qu'il faut faire maintenant, mais alors quel est... Sachant que l'effondrement est inévitable, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je le dis en une seule phrase, mais on pourra donner le détail si vous voulez. Plein de détails, des centaines de milliers de signes, si vous voulez. Il faut construire des biorégions résilientes. Donc l'avenir, c'est au local. Tout le pouvoir au local. En 1905, Lénine disait tout le pouvoir aux soviets. Eh bien, moi, je dis tout le pouvoir au local. Alors, le local, du point de vue philosophique, évidemment, c'est le territoire moins les murs. C'est-à-dire qu'on a une pensée universaliste. On reste quand même un humain des Lumières. On pense à l'ensemble de la planète et de l'humanité. Et d'autre part, donc, ce n'est pas du tout du localisme, je me replie sur moi, et puis moi, je suis breton, et toi, tu es basque, etc. Ce n'est pas du tout ça. On n'a rien à faire de ça. Ce qui compte, c'est le fait qu'on puisse vivre en paix avec ses voisins géographiques. Ce n'est pas du tout le groupe Facebook. Là, ouais, moi, j'ai des copines chinoises dans mon groupe Facebook. Ça sera dérisoire, ça ne servira à rien, quoi. Tout ça, c'est la crétinisation du monde actuellement. Hein, tout, que ce soit Facebook, Amazon et le reste. Bon, ça marche très bien. Mais tout ça va s'écrouler piteusement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que avec les gens qui sont vos voisins géographiques, quelle que soit leur couleur de peau, est-ce qu'ils veulent Front National, Extrême Gauche ou Écolo, peu importe, il faudra s'entendre avec eux. C'est avec eux que vous allez soit mourir, soit vivre. En gros, le mot d'ordre principal, localement, je dis bien localement, donc la France n'existera plus en 2038, ni l'Union européenne, ni l'ONU, c'est localement. Localement, c'est 50 personnes, 500 000 personnes, ou ce fut 5 millions de personnes au Rojava, mais le Rojava est pratiquement mort maintenant à cause des Turcs, qui ont tué les gens ou qui les ont déportés, eh bien, s'entraider ou s'entretuer.
Merci beaucoup.
XVIIe édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2019.